Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut à tous, c'est Vacarme en réunion. Alors, certains ont peut-être remarqué que depuis un mois et demi, on vous promet une émission sur l'état d'urgence en se lamentant quelque peu de cet état. Et qu'au lieu de vous parler d'état d'urgence, beaucoup parler de la ZAD et de Notre-Dame-des-Landes parce que ça nous semblait être important tout ce qui s'y passe actuellement et on en reparlera rapidement en fin d'émission. Et on a repoussé sans cesse à plus tard de s'attaquer à ce qu'est l'état d'urgence qui nous fait face. Essentiellement parce qu'on était un peu désarmés et qu'on avait besoin de chercher un peu des matériaux, des ressources et des armes ailleurs. Et ben, vous serez heureux d'apprendre que ça y est, on contre-attaque. Ça y est, on a quelques matériaux à se mettre sous la dent et à vous porter à vous aussi pour pouvoir commencer à faire face un petit peu à ce qui se passe. Alors, on a commencé cette contre-attaque en allant à Rennes la semaine dernière où il se tenait en fait des séminaires qui s'appelaient Contre l'état d'urgence, faire un état des lieux du monde et qui étaient 3 jours de discussions, de conférences à propos autour de l'état d'urgence. Ça partait d'une analyse géopolitique de la situation en Syrie et en Irak pour passer par une analyse de l'islamophobie jusqu'à en arriver à une analyse et une déconstruction du paradigme un peu sécuritaire que construit l'antiterrorisme. C'était très intéressant et on a enregistré tout ça. Et on va vous rediffuser ça dans cette émission et dans les émissions qui viennent. Donc ce qu'on va écouter aujourd'hui, c'est une conférence qu'a tenue Vanessa Codaccioni, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Paris 8, et c'est quelqu'un qui a travaillé en fait sur l'histoire de l'exceptionnalité, l'histoire des lois d'exception, l'histoire des régimes d'exception, et elle s'est intéressée particulièrement à la criminalisation des oppositions politiques et les tentatives de redéfinition des bornes du politique. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à la manière dont l'État français traite ses opposants depuis la guerre d'Algérie, ses opposants politiques, c'est-à-dire toutes les personnes qui contestent l'ordre. Du coup, elle va vous expliquer ça, on va l'entendre. Une des choses qui sont particulièrement intéressantes à garder en tête en écoutant sa conférence, elle est assez longue, hein, vous allez voir, ça dure une quarantaine de minutes, c'est assez clair, c'est de garder en tête l'idée que, contrairement à ce qu'on peut entendre régulièrement, il n'y a pas un état normal des choses qui serait un état de droit et un état d'exception qui serait, par exemple, depuis novembre, un état d'urgence. C'est-à-dire que Vanessa Codaccioni, elle nous montre que, en fait, depuis, sous toute la Ve République, l'état d'exception, les lois d'exception, le régime d'exception, c'est toujours ce qui a existé au sein de l'état de droit comme étant le régime spécifique qu'on exerçait pour les opposants politiques. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que nous, avec Armand Réunion, il nous semble important de dire que lutter contre l'état d'urgence, c'est pas au nom d'un retour à un état de droit. En fait, en octobre 2015, on n'était pas dans un état de droit. Je pense qu'il y a déjà énormément de gens qui le critiquaient. C'est pas pour dire qu'ici, on accorde beaucoup d'importance à la loi et au droit. Mais il faut quand même avoir bien en tête que l'alternative à cet état d'urgence existant aujourd'hui, c'est pas un retour à l'état de droit, quoi. C'est-à-dire que l'état d'urgence ne fait finalement que mettre encore plus à nu un état, l'état de guerre que livrent le gouvernement, les forces sécuritaires à tout ce qui tente de s'opposer à lui. Voilà, c'était juste une petite précision parce que nous, ça nous avait paru important en écoutant Vanessa. Du coup, vous pouvez écouter sa conférence. On se retrouve après.
Je vais revenir un petit peu sur l'état d'urgence en 1955 pendant la guerre d'Algérie. Puis je vais revenir sur mes travaux sur la justice d'exception. Et ce qui m'a intéressée, c'est en quoi l'antiterrorisme, aujourd'hui, actuel, est l'héritier d'une juridiction d'exception dont finalement on ne connaissait pas grand-chose, qui était la Cour de sûreté de l'État, et plus encore, quel est l'héritage colonial de l'antiterrorisme actuel. Et qu'est-ce que ça fait sur la répression, sur la figuration des ennemis intérieurs, etc. Je voudrais commencer par dire, c'est que ce qui se passe depuis le 13 novembre, c'est-à-dire non pas tant les attentats que leur gestion par le pouvoir central, s'inscrit dans deux histoires. L'état d'urgence, la proclamation d'état d'urgence, sa modification, j'y reviendrai, et son projet de constitutionnalisation s'inscrit dans une petite histoire, celle de l'état d'urgence, mais aussi dans une grande histoire, celle du recours à l'exception par les chefs de l'État et les gouvernements. Et c'est ces deux histoires-là que je vais essayer de vous restituer. Si on commence par la petite histoire, celle de l'état d'urgence, et là je vais être assez rapide, on peut voir qu'en réalité, c'est une, vous le savez peut-être, c'est une disposition d'exception qui a été inventée de toutes pièces pendant la guerre d'Algérie, au tout début de la guerre d'Algérie, à des fins politiques et stratégiques, et même militaires, on pourrait dire. On peut aussi rappeler, en tout cas je le fais, c'est que la guerre d'Algérie, pour moi et pour beaucoup de chercheurs, mais beaucoup de militants aussi, c'est que la guerre d'Algérie, c'est une véritable matrice de l'exception. C'est-à-dire, elle s'est caractérisée, la guerre d'Algérie, par énormément de mesures dérogatoires au droit commun, tout à fait arbitraires, attentatoires aux libertés fondamentales, etc., mais qui ont été en réalité couvertes, voire autorisées au plus haut sommet de l'État. On pense évidemment aux tortures, on pense aux exécutions sommaires, on pense aux détentions arbitraires, mais aussi aux internements dans des camps administratifs, puisque l'un des effets non dits à l'époque, en réalité, était la création de multiples camps d'internement en Algérie, en territoire algérien, mais aussi en métropole. Sur l'état d'urgence en particulier, au moment du vote de la loi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'insurrection algérienne, elle débute à peine. Elle a commencé depuis 5 mois environ et elle se caractérise par la multiplication d'actes de contestation de l'autorité coloniale, l'installation de maquis, la multiplication des attentats, le sabotage de lignes, de voies de communication, d'incendies criminels, d'attaques à main armée, d'explosions de bombes, destruction de marchandises, etc. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir décrété l'état d'urgence à ce moment-là et pourquoi l'avoir inventé, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans le droit avant. Il y avait déjà l'état de siège qui aurait pu être utilisé. En réalité, l'état d'urgence à l'époque est justifié, je vous cite parce que c'est important, elle est justifiée comme une réponse à l'insuffisance des moyens de droit qui n'ont pas été conçus pour des périodes insurrectionnelles. Et dans cette simple phrase, on retrouve de manière générale deux arguments qui justifient la mise en place toujours de dispositifs d'exception. Premièrement, l'insuffisance des moyens, et deuxièmement, une situation exceptionnellement grave, ici l'insurrection algérienne. Et de manière générale, on peut dire qu'il y a plusieurs arguments types qui vont justifier la mise en place de régimes répressifs aggravés. Je reviendrai sur ce que ça veut dire, régime répressif aggravé. Mais il y a toujours l'identification d'un péril et ou d'une menace à l'ordre public, avec toujours une figure de l'ennemi intérieur qui est ciblée. Ici, par exemple, ça va être les indépendantistes algériens. Or, quand on travaille sur la répression, on voit que cette figure de l'ennemi intérieur, ses contours deviennent de plus en plus indéfinis, indéfinissables, flous, incertains. Ce qui va permettre petit à petit d'élargir le spectre des gens qui vont être inclus dans cette figure très générale de l'ennemi intérieur. Deuxièmement, il y a toujours l'invocation à agir très très vite. Il faut toujours voter, mettre en place des dispositions dans l'urgence tout à fait rapidement. Et là, il y a des dispositions dans notre Constitution qui permettent notamment d'écourter des débats à l'Assemblée nationale et qui sont constamment utilisés sous la Ve République pour pas qu'il y ait de mobilisation et de résistance citoyenne aussi. L'urgence à agir est aussi une manière d'annihiler toute forme de contestation à ce qui est en train d'être mis en œuvre. Troisièmement, et ça c'est un argument qu'on retrouve complètement pendant la guerre d'Algérie, mais toujours et encore aujourd'hui, c'est l'incapacité de l'appareil répressif existant à faire face à cette nouvelle menace. Ça, c'est un argument type. Notre appareil répressif, notre système judiciaire, notre système État n'est pas capable. Il faut inventer de nouvelles choses. avant-dernier argument. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, cet argument d'une incapacité du droit commun à faire face au terrorisme, aux situations extrêmement graves, c'est plutôt un argument de droite et d'extrême droite, hein, qui ensuite a été récupéré aussi et qui fait consensus dans la classe politique aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de faire face à des situations exceptionnellement graves, donc il faut toujours plus d'exceptions. Et enfin, évidemment, il y a toujours la référence à une finalité supérieure. Alors avant, sous la Ve République, pendant la guerre d'Algérie, sous De Gaulle, la finalité supérieure, c'était la défense de l'État, la sauvegarde de l'État. Il fallait protéger l'État. Aujourd'hui, on est passé à un autre paradigme, hein, qui est celui de la protection des citoyens, qui est une manière de dépolitiser en fait la question et d'inclure les citoyens dans cette politique sécuritaire. D'ailleurs, l'état d'urgence a été décrit par Manuel Valls le 1er décembre 2015 comme un dispositif assurant la protection non seulement des citoyens mais des libertés. Donc on voit très bien comment le discours d'auto-justification de l'exception, hein, il se diffuse. En fait, si on revient à la guerre d'Algérie et donc à l'état d'urgence initial, on voit qu'en fait, c'est un dispositif, un régime d'exception qui permet de contrôler des populations, des idées et un territoire. Vous connaissez les dispositifs inhérents à l'état d'urgence, hein, les couvre-feux, l'interdiction des manifestations, l'interdiction des réunions, la fermeture des cafés, la saisie de journaux qui n'existent plus aujourd'hui, on pourra y revenir, les perquisitions de nuit, les interdictions de séjour, etc. Et à l'époque, hein, ce qui n'existe plus aujourd'hui, le jugement de civils par des tribunaux militaires, aux effets désastreux. Mais en fait, si l'état d'urgence est inventé, à l'époque, c'est pour éviter de recourir à l'état de siège, hein, premièrement parce que ça aurait donné tout le pouvoir à l'armée, et ça, c'était évidemment pas envisageable, mais c'est surtout parce que déclarer l'état de siège, ça aurait été donner une qualification militaire à ce qui se passait en Algérie. C'est ça qui a voulu être évité, c'est de donner une qualification militaire à l'insurrection algérienne. Puisque l'idée des gouvernements était de présenter le FLN, donc le Front de Libération Nationale, les indépendantistes, comme des délinquants et des criminels. C'était ça l'enjeu. Et non comme les guerriers d'une armée. Et en fait, on le voit très bien, vous le savez, la France a toujours refusé qu'il y avait une guerre en Algérie. Toujours. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'à l'époque, hein, on ne voulait pas dire qu'il y avait la guerre pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on ne voulait pas que l'ONU s'en mêle, hein, et donc il y ait une internationalisation du conflit. Mais c'est surtout que reconnaître la guerre, ça voulait dire que les indépendantistes étaient des combattants. Et que si on les arrêtait, c'était des prisonniers de guerre. Et être prisonnier de guerre, vous êtes couvert par les conventions de Genève. Et on ne traite pas un prisonnier de guerre comme on traite un malfaiteur ou un délinquant, évidemment, notamment en termes de torture. Et donc on voit très bien comment l'évitement du qualificatif « guerre » a joué dans l'invention de ce nouveau régime d'exception qui est l'état d'urgence. Alors évidemment, à l'époque, il y a eu énormément de protestations, notamment de la gauche de l'Assemblée nationale, qui l'a décrit comme une loi scélérate, une loi de la terreur, un état de siège fictif aggravé. Et pour faire écho à ce qui a été dit, hein, il faut rappeler quand même qu'en 1955, ce sont quand même 230 députés de gauche qui se sont opposés à la loi d'état d'urgence. C'est-à-dire que c'était quasiment la moitié de l'Assemblée nationale qui était contre cette disposition-là. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y en a eu que 6. Alors évidemment, ce n'est pas le même contexte, etc. Mais on voit comment finalement ce dispositif est apparu comme une très bonne solution, alors qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Et plus généralement, peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré qu'une très forte opposition, même à l'Assemblée nationale, à l'état d'urgence ait eu lieu, ça ne m'a pas empêché de mettre l'état d'urgence en œuvre, ce qui montre que les institutions de la Ve République, en réalité, facilitent complètement le recours à l'exception, puisqu'il suffit qu'un gouvernement ait la majorité à l'Assemblée nationale pour faire voter toutes les mesures répressives, sécuritaires et d'exception qu'il veut. Je ferme la parenthèse sur ça. Alors ensuite, hein, l'état d'urgence restera en vigueur pendant 6 mois. Il sera réactivé en 1958 par le général de Gaulle et ensuite le général de Gaulle le remobilisera encore de 1963 et 1961. C'est la fois où ça a duré le plus longtemps, c'est quasiment plus de 2 ans. Donc là, on a 3 utilisations de l'état d'urgence en réalité pendant la guerre d'Algérie, puis en 1984 en Nouvelle-Calédonie et en 2005 aussi au moment des révoltes urbaines. C'est donc cette loi cette législation-là de contrôle des idées d'une population et d'un territoire qui a été proclamée le 13 novembre par François Hollande au cœur même des attentats. Les attentats n'étaient pas encore finis que l'état d'urgence était déclaré. Or, ce qui est important de souligner, c'est que ce qui a été ensuite prolongé par les députés et les sénateurs, ce n'est pas la loi d'avril 1955 de la guerre d'Algérie. C'est une version aggravée de cette loi-là. Et on le sait puisqu'il y a trois dispositions qui ont été rajoutées et qui sont plus dangereuses. La première, pour tout vous dire, j'ai beaucoup travaillé sur ça et j'ai toujours pas compris pourquoi elle était dedans, donc je vous la livre. La dissolution des organisations, si les actes de leurs membres s'avèrent dangereux pour l'ordre public. Alors, c'est ce qui est très étonnant avec cette histoire de dissolution, c'est qu'en fait, on peut déjà dissoudre des organisations par une loi qui existe déjà depuis 1936. Donc, la question est pourquoi avoir inclus cette disposition-là, qui est extrêmement répressive, j'y reviendrai, dans la loi de l'état d'urgence de novembre 2015, et qui n'a encore pas été utilisée. Ça, c'est en suspens. Deuxième disposition qui me paraît inquiétante, c'est les perquisitions administratives sans contrôle judiciaire. C'est-à-dire que c'est le préfet qui va dominer complètement ici la répression et puis la facilitation des assignations en résidence. Donc vraiment, il y a ça. Dissolution, perquisition, assignation en résidence. Mais ce n'est encore pas cette loi-là qui a été constitutionnalisée. Ce qui est proposé à la constitutionnalisation aujourd'hui, c'est une version aggravée de la version aggravée de la loi de 1955. Et ça a été rappelé, ce qui est proposé à la constitutionnalisation, c'est un état d'urgence où il n'y a pas de durée. Alors apparemment ça a été modifié par des amendements. On en serait à une durée de 4 mois, renouvelable. Voilà. En revanche, les outils, entre guillemets, dont pourraient disposer les agents de sécurité seront décidés au moment de la proclamation de la loi, si j'ai bien compris. Donc on ne sait pas concrètement quelles sont les mesures répressives qui pourraient être mises en œuvre si l'état d'urgence était proclamé demain. Donc c'est ça, à mon avis, la disposition la plus dangereuse. Et ce qu'on a très bien vu aussi, c'est du coup deux dérives traditionnelles des états d'exception ou des régimes d'exception. La première dérive, c'est celle de la pérennisation de l'exception dans le droit. La volonté de constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est aussi une volonté d'inscrire dans le droit des dispositifs d'exception qui devraient demeurer tout à fait exceptionnels. Donc ça, c'est une première dérive, pérennisation de l'exception. Deuxième dérive, et c'est ce qu'on a vu avec les assignations à résidence, les perquisitions qui ont touché des gens tout à fait extérieurs à des réseaux terroristes, djihadistes et des militants, etc., c'est l'extension progressive des cibles de la justice d'exception, qui n'a en fait, en réalité, soi-disant officiellement été mis en œuvre pour punir, arrêter des djihadistes, mais qui en réalité a touché énormément de gens tout à fait extérieurs à ça. Donc ça, c'est la deuxième dérive, c'est l'extension des cibles initialement et officiellement visées. Et là, donc, ce qu'on voit très bien, c'est que cette gestion des attentats du 13 novembre, si elle s'inscrit dans l'histoire que je viens de vous rappeler très rapidement de l'état d'urgence de 1957, elle s'inscrit aussi dans une histoire beaucoup plus générale, beaucoup plus vaste, qui est celle du recours à l'exception sous la Ve République, mais même au-delà. Et là, je vais vous parler donc de mon travail sur la justice d'exception, les juridictions d'exception, et sur le destin très particulier d'une juridiction d'exception qui a été créée juste après la guerre d'Algérie et qui s'appelle la Cour de sûreté de l'État. Alors, je vais juste vous dire pourquoi j'ai travaillé sur cette juridiction-là. Ça peut paraître un peu, à première vue, peut-être un peu étonnant de travailler sur un tribunal en particulier. C'est qu'en fait, ça fait 10 ans que je travaille donc sur la répression des militants. Et j'ai travaillé sur la répression de l'extrême-gauche, et plus précisément du Parti communiste français, pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Donc en gros, jusqu'en 1962. Et je m'étais dit, je vais continuer à étudier la répression des militants, des ennemis intérieurs, des ennemis publics, ceux qui sont considérés comme tels, après la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était la répression de 68, des Mao, des Gary, d'Action Directe, du FLNC, etc. C'est ça qui m'intéressait. Et quand j'ai commencé mes recherches, j'ai vu que tous ces « ennemis intérieurs » entre guillemets étaient déférés devant un tribunal qui s'appelait la Cour de sûreté de l'État. Je me suis dit, c'est quand même curieux qu'ils passent tous devant cette juridiction d'exception, il doit y avoir beaucoup de choses. Donc j'ai fait des recherches et en fait j'ai vu qu'il n'y avait quasiment rien sur cette juridiction d'exception. Peu de personnes avaient travaillé là-dessus et il y avait 500 cartons d'archives à Saint-Denis qui n'avaient jamais quasiment été dépouillés. Et donc ça m'a décidé à travailler sur cette histoire-là qui en réalité m'est apparue beaucoup plus importante que ce que j'y paraissais, puisque, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, la Cour de sûreté de l'État, en fait, elle a innervé, elle a été au cœur de la généalogie de notre antiterrorisme actuel. J'y reviendrai. Donc, première chose que je me suis demandé, c'est comment est-ce que les ennemis intérieurs étaient jugés avant ? Par quel type de tribunaux ? Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'à 1963, donc au moment où est créée cette juridiction-là, les ennemis intérieurs n'étaient pas jugés par un organe juridictionnel spécifique. Il n'y avait pas de tribunal spécial ennemi intérieur jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Et notamment, il n'y avait pas de juridiction antiterroriste, par exemple. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose qui me semble important, c'est que le terroriste, à l'époque, n'est pas un ennemi intérieur spécifique. C'est-à-dire qu'il est inclus dans un ensemble plus vaste qu'on appelle les politiques, par opposition au droit commun. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que cette distinction criminelle politique, criminelle terroriste, criminelle de droit commun, en fait, elle est au cœur des stratégies de répression de l'État. Et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de travailler sur comment devient-on un politique, ou un droit commun, ou un terroriste, comment est-ce qu'on est étiqueté comme ça par les magistrats, mais aussi par le garde des Sceaux ou par le président de la République. Et ça, c'est intéressant de travailler sur les bornes de ces figures de l'ennemi intérieur, de la délinquance et de la criminalité. Et les questions que je me suis posées aussi, c'est pourquoi avoir créé une telle juridiction ? Ça, c'est la première question, toute bête. Hein. Pourquoi l'avoir créée ? Qu'est-ce que ça change dans le jugement, dans la répression des ennemis intérieurs ? Et puis, comme je vous l'ai dit, en quoi ça nous éclaire sur notre antiterrorisme actuel ? En gros, voilà les questions que je me suis posées quand j'ai commencé ma recherche. Donc, je reviens sur comment ont été jugés les ennemis intérieurs. Et en fait, il faut distinguer deux temps. En temps de paix, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de guerre, de situation de crise, de post-conflit, ceux qui étaient considérés comme des ennemis intérieurs étaient jugés par deux types de juridictions, soit les tribunaux de droit commun, la cour d'assises, même si très rarement, et surtout le tribunal correctionnel, qui est largement mobilisé contre les militants pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre froide, pendant la guerre d'Indochine et pendant la guerre froide. Donc soit cour d'assises et surtout tribunal correctionnel, soit deuxièmement le tribunal militaire. Et quand j'avais travaillé sur la répression communiste, anticommuniste, j'avais vu comment il y avait tout un enjeu pour faire passer des militants communistes au tribunal militaire et non pas au tribunal correctionnel. Et là, il y a un jeu sur les qualifications. Un tract n'est plus une injure au Premier ministre, mais devient un tract qui va appeler à la désobéissance militaire. Et ce changement de qualification-là, eh bien, ça vous fait passer devant le tribunal militaire, qui sont évidemment plus sévères, plus durs, etc. Donc en temps de paix, soit les tribunaux de droit commun, soit les tribunaux militaires, et puis en temps de crise, en temps de post-conflit ou en temps de guerre, par des juridictions d'exception. C'est-à-dire par des juridictions politiques qui sont voulues par l'exécutif, par le chef de l'État, par le gouvernement, pour juger très rapidement, massivement et très sévèrement une cible très précise. Et ça, ça a été appliqué à des opposants. Je vous donne deux exemples. Sous Vichy, de plus en plus, les Allemands mettent pression sous Vichy au début de la guerre pour accentuer la répression des anarchistes et des communistes. Donc en 1941, on va créer des sections spéciales qui vont être spécialisées dans le jugement des anarchistes et des communistes et qui sont extrêmement répressives et qui vont aboutir à de nombreuses condamnations et exécutions. Ça, c'est l'exemple type de la juridiction d'exception, les sections spéciales créées sous Vichy. Deuxième exemple, les tribunaux permanents des forces armées, ce qu'on appelait les TPFA, qui sont utilisés pendant la guerre d'Algérie pour juger tous les indépendantistes, réels ou supposés, et tout leur soutien, réel ou supposé. Et donc, en Algérie, ils vont évidemment juger tous les membres du FLN et leur soutien, et en métropole, ce qu'on a appelé les porteurs de valises. C'est-à-dire ceux qui étaient considérés comme des véritables traîtres à la nation parce que, de métropole, ils aidaient les indépendantistes algériens. Eh bien, les porteurs de valises étaient déférés, non pas devant des juridictions de droit commun, mais devant des tribunaux militaires. Donc voilà pour ces deux répartitions qui étaient assez claires. Mais en réalité, il n'y avait pas, donc, je vous le disais, de tribunal en temps de paix spécialisé dans les ennemis intérieurs. Et en fait, c'est ce que va combler, entre guillemets, le général de Gaulle. Donc je vais revenir un peu sur cette histoire, comment elle a été créée, puis comment elle a informé l'antiterrorisme. Donc la Cour de sûreté de l'État, c'est comme ça qu'elle s'appelait, est une juridiction d'exception qui a été voulue par le général de Gaulle en 1963 pour officiellement réprimer l'OAS et qui a été instaurée par deux lois qui ont été votées par le Parlement et le Sénat en janvier 63. Et là encore, on voit l'importance de l'Assemblée nationale, des députés et des sénateurs dans l'instauration de dispositifs d'exception. Ce tribunal spécial, qui est en fait le bras judiciaire du général de Gaulle, donc le bras judiciaire du chef de l'État, en fait possède toutes les caractéristiques des juridictions d'exception traditionnelles qui traversent l'histoire de France. Et je vais vous citer quatre caractéristiques des juridictions d'exception qui me semblent essentielles. Premièrement, elle est créée dans un contexte de post-conflit. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les juridictions d'exception qui ont été créées en France, sous la Révolution française, sous Vichy, à la Libération, pendant la guerre d'Algérie, sont toutes instituées dans des contextes de crise extrêmement graves, hein, où il y a la nécessité perçue par les gouvernements de punir un ennemi intérieur. Alors, je vous cite une liste, hein, mais par exemple, sous Vichy, nous avons les sections spéciales, la Cour martiale, la Cour suprême de Riom, le Tribunal d'État, les Cours martiales. À la Libération, nous avons les Cours martiales, les Cours de justice, les Chambres civiques, la Haute Cour de justice, et pendant la guerre d'Algérie, le Haut Tribunal militaire, le Tribunal militaire spécial, la Cour militaire de justice, les Cours martiales d'Alger et d'Oran, le Tribunal de l'ordre public, etc. Je suis allée très vite, c'était exprès, en fait, pour montrer comment il y avait une multiplication des juridictions d'exception, comment est-ce qu'elles sont en fait tout à fait ordinaires dans la gestion de l'ennemi intérieur en France. C'est-à-dire que ce ne sont pas tellement des exceptions, c'est qu'il y a une tradition de recours à ce type de juridiction-là de manière tout à fait traditionnelle et donc habituelle. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que dans un temps si court, on va multiplier les juridictions d'exception? Pourquoi ne pas en créer que une, que deux, mais cinq, six? C'est pour élargir le filet dans lequel des ennemis, des opposants peuvent être pris. Plus vous en multipliez, plus vous avez de chances d'en faire condamner le plus grand nombre possible en réalité. Donc il y a ce que j'ai appelé une espèce de perfectionnement de la justice d'exception par la multiplication de ces tribunaux-là. Ça, c'est vraiment la première caractéristique, hein, s'inscrire dans un contexte de crise. Deuxième caractéristique des juridictions d'exception, c'est qu'évidemment, elles sont là pour juger plus sévèrement les crimes et les délits politiques, qui sont perçus comme politiques, on pourra revenir sur ce que ça veut dire. Et une sévérité qui est facilitée par de multiples facteurs, premièrement parce que la plupart, elles sont composées de militaires. Alors, il y a parfois des juges de l'ordre judiciaire ordinaire, mais il y a aussi des militaires. Et évidemment, les militaires ne sont pas réputés pour moduler la sévérité des autres juges. Et puis, c'est des juridictions qui peuvent prononcer énormément de peines, hein, de la peine d'amende à la condamnation à mort, par exemple. Donc, elles ont ce qu'on appelle un large système de peine, et elles ont aussi un large système d'incrimination. C'est-à-dire qu'elles peuvent juger, on va le voir, énormément de crimes et de délits. Donc elles peuvent en réalité englober un ensemble d'actes très 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 importants et donc condamner énormément de personnes au profil, au type d'activité et aux revendications très différenciées. Et là, je vois une parenthèse qui me semble importante, c'est que, en général, les observateurs de la vie judiciaire ont tendance à considérer que l'une des peines les plus importantes, hormis la condamnation à mort évidemment, c'est la peine d'emprisonnement. Et donc, par exemple, des observateurs vont dire la Cour de sûreté de l'État, dont qu'a créé de Gaulle, finalement, elle n'a pas été si sévère que ça. Ce que je voudrais dire, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, c'est que l'emprisonnement, après un verdict, n'est pas parfois le principal. La principale peine qui peut être donnée par des juges. Les amendes, on le sait, ont aussi pour but d'étouffer les organisations, par exemple. Mais on sait aussi, et c'est ce qu'on voit très bien quand on travaille sur la répression, que la répression, elle est souvent avant le verdict. Les gardes à vue, les perquisitions, les assignations, la détention provisoire. Tout un ensemble de peines invisibilisées, invisibles, qui en fait sont déjà de la répression. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, attention, évidemment la peine prononcée par des juges est importante, mais il y a toute une forme de répression avant qui est souvent privilégiée d'ailleurs par la police, par les ministres de l'Intérieur, etc. Donc il y a toujours une répression avant verdict sur laquelle il faut être, il me semble, très attentif. Troisième caractéristique, c'est qu'elles autorisent, ces juridictions-là, des pratiques policières et pénitentiaires d'exception. Et là, si je vous dis la durée de la garde à vue autorisée par la Cour de sûreté de l'État, 15 jours de garde à vue en cas d'état d'urgence, 10 jours de garde à vue en temps de paix. Et ça, ça a été donc voté par le Sénat et le Parlement en 1963. Alors, les militants n'ont pas été en garde à vue pendant 10 jours, mais la plupart des membres donc, de l'OAS, les manifestants de mai 68, les maoïstes, les membres des indépendantistes corses, basques, bretons, guadeloupéens, les espions, en fait, tout ce qu'on peut imaginer qui sont passés par la Cour de sûreté de l'État, ont subi des gardes à vue de 6 à 7 jours, pour la plupart. C'était tout à fait la norme d'être gardé à vue 6 à 7 jours. Donc les gardes à vue de très longue durée. Les détentions de longue durée. Par exemple, dans le cas de la Cour de sûreté de l'État, le procureur, le juge d'instruction, n'est pas obligé de motiver par un arrêté, par un écrit, la détention provisoire de 4 mois en 4 mois. Il n'est pas obligé de le faire tous les 4 mois, donc en fait, vous pouvez rester en prison assez longtemps. Et je crois que Jean-Marc Rouillan, puisque je ne l'ai pas dit, mais évidemment, Action Directe a été visé par la Cour de sûreté de l'État, je crois qu'il est resté 33 mois de prison avant d'obtenir un verdict ou d'être libéré. Donc, des peines, des détentions qui peuvent être extrêmement longues. Mais aussi, à l'époque, l'utilisation de repentis. Alors, je sais que le terme peut paraître totalement anachronique, et pourtant, dans une loi de janvier 63, donc qui instaure cette fameuse Cour de sûreté d'État, les juges rappellent que si vous dénoncez, vous pouvez obtenir l'absolution, c'est-à-dire être absous. Et quand on regarde les archives judiciaires, on voit que, par exemple, il y a certains Mao qui avaient commis ce qu'on appelle des attentats, ont été dénoncés par des gens qui avaient participé avec eux. Et donc, au tribunal, vous aviez les Mao qui avaient participé et qui n'avaient pas dénoncé et qui étaient jugés. Et puis, les Mao qui avaient dénoncé et qui sortaient du tribunal libre. Et donc, l'utilisation de repenti est quasiment institutionnalisée dès 1963. Donc, en réalité, le propre des juridictions d'exception, quand on voit toutes ces dispositions-là, c'est de mettre en place ce que j'ai appelé un régime répressif aggravé, c'est-à-dire un traitement policier, pénal et carcéral tout à fait spécifique, plus sévère et distinct de celui de tous les autres justiciables. C'est-à-dire on va isoler une catégorie de la population, on va la mettre à part et on va lui réserver un traitement répressif différencié. Et c'est ça le propre des juridictions d'exception, c'est d'isoler une catégorie de la population et de la mettre en statut d'infériorité juridique. C'est ça, en réalité, le propre. Et puis, évidemment, dernière caractéristique des juridictions d'exception, c'est qu'elles sont complètement soumises à l'exécutif, c'est-à-dire au garde des Sceaux, ministre de la Justice, parfois au ministre de l'Intérieur, et aussi au chef de l'État. Et, en réalité, tout l'intérêt pour l'exécutif de créer ces juridictions d'exception, c'est qu'en fait, elles vont appliquer le plus souvent ces directives répressives. Juger telle personne, tel groupe, à tel moment, avec telle peine, pour tel résultat. Et donc, ça va permettre au pouvoir politique de s'immiscer dans la gestion judiciaire d'affaires qui sont considérées comme politiques et sensibles. Et donc, ça permet à l'exécutif d'avoir une mainmise sur la justice. Ça, c'est traditionnel aussi, une volonté du pouvoir politique d'accaparer le pouvoir de punir et de juger. Ce qu'on voit dans le cas de la Cour de sûreté de l'État, c'est qu'il y a une surpolitisation de la justice. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de savoir comment étaient recrutés les juges qui sont dedans. Qui ce sont ces juges, pourquoi ils sont là et comment on les choisit. Puisqu'évidemment, les juges de ces juridictions d'exception sont choisis directement par le garde des Sceaux et le chef de l'État. Et ce qu'on voit très bien, c'est que les juges de cette juridiction-là que j'ai étudiée, ce sont soit des militaires de carrière, qui sont proches du pouvoir, soit des juges qui ont des trajectoires et des profils extrêmement particuliers. Par exemple, tous les magistrats qui rentrent à la Cour de sûreté de l'État en 1963, ce sont des magistrats qui sont habitués des juridictions d'exception. C'est-à-dire qu'ils sont tous passés par les tribunaux militaires pendant la guerre d'Algérie pour réprimer l'OAS ou le FLN. Donc ils sont tout à fait habitués aux procédures spéciales, aux dispositions dérogatoires. Et c'est pour ça qu'on les choisit, parce qu'ils sont donc habitués à l'exception et répressifs. Donc il y a toute une modalité de recrutement très particulière. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et ça c'est étonnant aussi quand on connaît un peu l'histoire de la justice, c'est que les magistrats de la Cour de sûreté de l'État sont nommés délégués ou détachés pour 2 ans, alors que normalement il n'y a pas de durée de fonction. Ça met en cause à la fois l'indépendance des juges, mais aussi ce qu'on appelle leur inamovibilité. Là, dans le cas de ce type de juridiction-là, si vous ne convenez pas, au bout de 2 ans, mais même avant, hein, ça se commente, parce que quand on regarde, c'est quand même avant, on peut se débarrasser de vous. Et donc, nommer des juges uniquement sur une durée très courte, c'est pouvoir complètement contrôler ce qui s'y passe, et c'est aussi contrôler les pratiques des magistrats. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les juges. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi quels avantages les juges retirent de ça. Et effectivement, quand on regarde les archives, on voit très bien les avantages que les juges retirent à participer à ce type de juridiction, les avantages en salaire. Ils doublent quasiment leur salaire pour participer à ce type de juridiction. Ils ont aussi des avancements de carrière, des promotions professionnelles. Il y en a beaucoup qui finissent à la Cour de cassation, alors que normalement, ils n'auraient jamais pu finir à la Cour de cassation. Et puis, il y a aussi tout un ensemble d'honneurs. Par exemple, on va les décorer de la Légion d'honneur, par exemple. C'est des petits détails, mais qui montrent les avantages que certains juges peuvent retirer de ce type de nomination. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si on regarde comment sont jugés les ennemis intérieurs, comment ils sont arrêtés, mis en garde à vue, inculpés et jugés, on voit qu'il y a une mainmise du politique sur tout le processus, en fait, sur tout ce processus-là de répression. Par exemple, c'est le garde des Sceaux qui est le seul à décider si un militant va passer devant le tribunal correctionnel ou devant la Cour de sûreté de l'État. Donc c'est lui qui décide si vous êtes un délinquant ou un opposant, ou bien quelqu'un qui mérite un traitement de droit commun ou quelqu'un qui mérite un traitement d'exception. Et comment est-ce qu'il opère cette opération de partage? Comment il fait ce partage des justiciables? Eh bien, en travaillant sur les qualifications. Je reviendrai tout à l'heure, mais c'est lui qui va décider si un vol est un vol de droit commun ou un vol qui attente à la sûreté de l'État et donc un vol qui a une connotation politique. Donc ça, c'est le juge, hein, c'est les juges, mais c'est surtout le garde des Sceaux qui va décider. De la même manière, une fois que vous êtes inculpé, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous mettre devant le tribunal, vous faire juger par le tribunal, c'est le président de la République. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été inculpé devant la Cour de sûreté d'État ne peut être jugé que par un décret signé en Conseil des ministres par le président de la République. Et si le président de la République ne signe pas ce décret, ben au bout d'un an, vous êtes libéré. Ce qui montre bien comment, en réalité, tout le processus est complètement contrôlé, à la fois par le garde des Sceaux et à la fois par le président de la République. C'est eux qui décident complètement ce qui se passe dans le processus pénal. Ce qu'on voit, c'est que, comme toute... les juridictions d'exception que je vous ai citées tout à l'heure, hein, la Cour de sûreté de l'État, son régime répressif aggravé s'appuie sur la dérogation à certains principes, hein, le principe du procès équitable, etc. Mais en fait, si elle s'inscrit parfaitement dans toute l'histoire de la justice d'exception en France, la Cour de sûreté de l'État, et c'est pour ça que j'ai travaillé dessus, c'est qu'elle a une caractéristique. Elle a une caractéristique très particulière. Elle est inédite. Toutes les juridictions d'exception passées que je vous ai citées, leur principale caractéristique, c'était le caractère provisoire. C'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais été instaurées pour durer. Elles étaient créées le temps d'une crise pour juger un ennemi intérieur très précis. À la Libération, on a créé des juridictions d'exception pour juger les collaborateurs. Point. Aucun résistant ou aucune personne qui a mis en place ces juridictions-là s'était dit « on va garder ces juridictions-là ». Elles avaient un but précis, juger les collaborateurs. Une fois que les collaborateurs étaient jugés, elles ont été supprimées. En réalité, la Cour de sûreté de l'État, elle est pensée pour durer. Et ça, ça change complètement la manière d'envisager la répression. C'est-à-dire que, à mon avis, ce que ça montre, cette pérennisation de la Cour de sûreté de l'État, c'est une institutionnalisation de la légitime défense de l'État. Légitime défense permanente de l'État. Avant, quand il y avait des crises exceptionnellement graves, hein, on parlait de la légitime défense de l'État, vite, il fallait réagir par des dispositifs d'exception. Là, en gardant une juridiction d'exception pendant 18 ans, puisqu'elle a duré 18 ans, on va instaurer une légitime défense permanente de l'État. Et c'est de l'institutionnaliser. Et en fait, ce qui découle de ça, c'est le choix d'avoir fait créer cette juridiction-là par le Parlement. D'ordinaire, tous les tribunaux spéciaux, avant, ils étaient créés par des décrets du président de la République, par des décrets par le pouvoir politique. Là, c'est le Parlement qui va décider, voter la création de la Cour de sûreté de l'État. Et en fait, c'est très simple, c'est que le général de Gaulle savait qu'en la faisant valider par la représentation nationale, c'est-à-dire par les députés et les sénateurs, c'est une juridiction d'exception qui allait durer dans le temps et donc être pérennisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'officiellement, cette juridiction d'exception, et ça nous intéresse par rapport aux cibles, c'est qu'officiellement, elle est créée pour juger l'OAS, Organisation Armée Secrète, c'est-à-dire les partisans radicaux de l'Algérie française. Mais en coulisses, le général dit, en fait, je ne veux pas la créer pour l'OAS, qui est complètement fichu, je veux la créer par précaution nationale. Et ce mot précaution nationale, il est très important, parce que ça montre qu'on veut instaurer une menace politique indéfinie, un ennemi intérieur futur dont il faudra se prémunir. Et donc, en fait, ce qu'on voit très bien lorsqu'un dispositif d'exception comme ça est inscrit dans la loi, c'est qu'il y a un renversement des logiques punitives. D'habitude, la justice d'exception, elle est réactive. C'est-à-dire qu'elle est toujours créée pour réagir à des événements meurtriers, etc. Là, on voit qu'en gardant une juridiction comme ça dans l'appareil répressif, on en vient à une logique préventive de la justice d'exception, une logique répressive préventive, mais aussi une logique répressive proactive. C'est-à-dire qu'il va sans cesse chercher des cibles et construire des groupes qui vont être considérés comme à risque. Et en fait, le général de Gaulle avait cette phrase, dès la fin de la guerre d'Algérie, le terrorisme, la subversion, l'espionnage peut venir d'on ne sait où, donc il faut la garder. Et ça, c'est complètement un renversement des logiques de la répression. Et en fait, c'est cette conception-là de la répression qui fait, et ça c'est complètement inédit aussi, qu'un tribunal qui a été créé pour juger l'extrême droite finit par juger l'extrême gauche et les indépendantistes. Ça non plus, ça n'existe pas, une juridiction d'exception ne change pas de cible comme ça, alors que là c'est créé pour juger l'extrême droite et ça finit par juger l'extrême gauche et indépendantiste. Alors j'ai pas le temps de revenir sur toute l'histoire de la Cour de sûreté de l'État, ce serait trop long. C'est ce qu'on voit très bien, c'est que petit à petit, au départ, elle essaie, donc il y a la répression de l'OAS au départ, pendant quelques mois, on va juger, je crois, 2000 personnes en quelques mois, donc c'est vraiment une juridiction qui fonctionne à plein tous les jours avec des multiples procès. Puis une fois que l'OAS est amnistiée, il y a quasiment plus personne à juger. Je crois que, pour vous donner un chiffre, même si c'est pas important, mais je crois qu'en 66, il y a 5 affaires à juger. En une année, il y a 5 nouveaux cas, alors que les années précédentes, ils ont jugé 1000 pendant quelques mois. Et donc, il n'y a plus de nouveaux ennemis intérieurs. It's a state of emergency. 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 Showed you I'm transforming like the grains of past 2 hour glasses shaped by sandstorm wind. Put them in the trance with the recording, seen a hand swarming in the crowd. I ran towards them and my wingspan soaring like I'm Flash Gordon with an aerial view of the mitten next to Ontario, a barrier crew. Detroit City, shoot for 3 points, hit me from the top of the key like I'm on a shock and you shocked that it's me. While Kwame defending this text and descending and then I got the opposition copping the plea. But musically we setting the standard, you cats is biting and forgetting your manners while every sitting cinematic stretching the canvas. Paint a picture with war like Guernica. All we gotta do is let a bang turn it up. I spit these flows till I'm 6 below. My job's to make the revolution irresistible, so listen close. Dangerous to speak the truth that complicated the matters. I guess it's just an occupational hazard. In the trenches, I'm underground like the salt mine. Stolen the wrenches, now they defenses. We hit the fault lines, awakening the senses. We all blind. First I gotta make it through the entrance. By the time I hit the exit, you'll all rewind.
Et voilà, c'était Vanessa Codaccioni qu'on avait enregistrée à Rennes pendant des séminaires à propos de l'état d'urgence qui s'appelait « Contre l'état d'urgence, penser l'état du monde ». La suite de la conférence, vous pourrez l'entendre dimanche prochain. Et puis, il y a d'autres conférences aussi qui se sont tenues pendant ces séminaires et qu'on a trouvé particulièrement intéressant. Des conférences qui faisaient un état des lieux un peu géopolitique aussi de ce qui se passait en Syrie, en Irak. Et puis, d'autres choses sur l'antiterrorisme dont on vous reparlera. En attendant, on voulait vous lire l'édito, enfin une sorte d'édito qui avait été écrit par la Maison de la Grève, qui est une association qui se tient à Rennes et qui c'est elle qui a organisé ces trois jours de séminaire contre l'état d'urgence. Et comme introduction un petit peu à ces séminaires, ils avaient écrit cet édito. Ça dure 9 minutes, c'est un petit peu long, mais je vous conseille d'essayer de vous concentrer. C'est très dense, mais particulièrement intéressant.
Les attaques meurtrières et tragiques que la France a connues sur son sol durant l'année 2015 ont suscité une vive émotion. À plusieurs reprises, face à l'absurde, beaucoup sont descendus dans la rue pour exprimer leur désarroi. Dans le même temps, le monde politique s'est saisi de la question par une série de déclarations et d'initiatives, allant de l'héroïsme suranné au franchement inquiétant, en passant par le patriot kitsch, affirmation de l'Union nationale, cyberdrapeau téléchargeable, fermeture des frontières, camp d'internement pour fichier S, déclaration de guerre, déchéance de nationalité. Mais surtout, les événements de janvier ont conduit à entériner la loi élargissant les pouvoirs des services de renseignement en juillet 2015. Ceux du 13 novembre ont abouti à la proclamation de l'état d'urgence et à sa prochaine intégration dans la Constitution. La profusion d'interprétations, d'avis d'experts et d'opinions forme un niveau de compréhension largement médiatisé sur lequel nous ne reviendrons pas. Ces mesures nous semblent plutôt être les symptômes d'une transformation générale du modèle étatique. De plus en plus familières, par leur caractère durable ou récurrent, elles sont devenues une des pratiques essentielles des États contemporains, démocratie comprise. Elles incarnent un mode de gouvernement, l'état de sécurité. Il s'agit bien plus d'une gouvernance que d'un gouvernement, puisque tout clivage politique s'efface devant une unique fin, la gestion des crises. Attentats, catastrophes naturelles, krachs boursiers, accidents, épidémies, désastres écologiques. L'état de sécurité vit par les exceptions qu'il désigne. À se répéter, l'exception devient la règle. L'état d'urgence incarne ce changement de priorité. L'impératif de sécurité, à lui seul, justifie la négation d'autres principes de gouvernement rendus incompatibles, tels que les idées de démocratie ou de séparation des pouvoirs. Une des caractéristiques des lois sécuritaires de 2015, c'est le court-circuitage du pouvoir judiciaire au profit de la toute-puissance exécutive. La loi sur le renseignement place les mises sur écoute directement sous le contrôle du Premier ministre, alors que l'état d'urgence permet les perquisitions administratives décidées non plus par le juge, mais par le préfet lui-même. Celles-ci peuvent être menées contre toute personne à l'égard de laquelle il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et la sécurité. Formulation qui n'a plus aucun sens juridique et qui repose entièrement sur le jugement de l'administrateur. Parmi les exceptions qui viennent justifier l'urgence, il y a cette guerre dont parle François Hollande. Elle nous rappelle ce qu'il y a de construction dans la définition d'une crise. On pourrait dire deux choses, que l'Occident n'a pas connu la guerre depuis 30 ans, ou bien qu'il a toujours été en guerre. Et cela revient au même. La guerre, telle que l'a connue le XXe siècle, opposant un État-nation à un autre, commençant par une déclaration de guerre et se soldant par un traité de paix bilatéral, n'existe plus. Ce qui l'a remplacé, c'est une série interminable d'interventions, toujours asymétriques, d'États ou de coalitions d'États, contre ce qu'ils qualifient eux-mêmes de criminels ou terroristes. L'ennemi n'est plus circonscrit à un appareil d'État, à des institutions, mais défini comme un camp. Dès lors, ces guerres n'ont plus de limites. Plus de limites temporelles d'abord, puisqu'elles se présentent comme des opérations de maintien de l'ordre. Chaque intervention préparant la suivante. Quand pourra-t-on prétendre qu'un ennemi comme Daesh aura été vaincu ? Mais surtout, elles n'ont plus de limites spatiales. Alors que la France intervenait depuis le ciel dans un conflit à des milliers de kilomètres de son sol, c'est par certains de ses propres ressortissants que celui-ci fait irruption dans sa capitale. Face à ce nouveau paradigme, l'état de sécurité a une réponse, la militarisation du quotidien. L'ennemi est partout. Cela justifie un quadrillage méthodique de l'espace, l'omniprésence de l'armée dans les lieux publics, les fouilles à l'entrée des administrations, des écoles, etc. Dans ce champ médiatico-politique, cela s'incarne par la construction d'une figure, celle de l'ennemi intérieur. Concentration des peurs, aux contours vagues, elle change de visage au gré des crises. Cette année, naturellement, elle porte la barbe, peut-être même fait-elle la prière plusieurs fois par jour, et ne se sent-elle pas tout à fait Charlie. Quelque chose en elle d'irréductible fait qu'on ne la lavera jamais de tout soupçon. Elle aura beau se justifier, il restera une part d'ombre quelque chose qu'il faudra toujours vérifier. Si seules 4 perquisitions sur plus de 3000 ont permis des inculpations pour terrorisme, ce n'est pas un problème, car ces gens ne pouvaient pas être blancs comme neige. Les perquisitions administratives permettent de faire une pierre deux coups puisqu'il y a porosité entre les milieux du grand banditisme, du trafic de stupéfiants et du terrorisme, disait Bruno Béchiza, maire d'Aulnay-sous-Bois. Et il y a porosité, le parti des méchants. S'il n'y a pas de lien physique, il y aura toujours cette alliance d'intérêts. Dans le fond, ce que produit l'état d'urgence, c'est une polarisation. D'un côté, il y a le camp de l'ordre et de la sécurité, et de l'autre, en négatif, tous ceux qui n'en sont pas, tous ceux qui le combattent, le gênent ou le ralentissent. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Toute conflictualité est traitée à partir de cette disjonction. C'est ainsi que plusieurs militants politiques rennais ont été réveillés à leur domicile par des escouades d'intervention de la police au matin du 25 novembre dernier. On les assigne à résidence pendant 2 semaines, car on estime qu'ils représenteraient un danger pour l'ordre public. En se rendant aux manifestations contre la COP à un moment où les efforts doivent être tous orientés contre l'ennemi commun. L'Union nationale s'obtiendra de gré ou de force, et toute contestation est une futilité en face du péril. Sous l'état de sécurité, il n'y a plus de politique. Il n'y a que des risques. La criminalisation des formes de politique qu'on pourrait qualifier d'extra-parlementaire ou de transversale nous semble particulièrement inquiétante dans un pays où presque plus personne ne croit encore à la politique dite classique. Depuis au moins 15 ans, les sondages électoraux s'enchaînent en déroulant le même scénario. Des taux d'abstention records conjurés in extremis en agitant l'épouvantail du Front National au deuxième tour. Personne n'est vraiment déçu puisque l'on n'attend rien. Seul trouvé dans cette rengaine mécanique, ce que l'on a appelé les mouvements sociaux, qui semblaient être les derniers sanctuaires préservés du cynisme et de la désillusion. Il n'y a qu'à voir la terminologie qui a récemment servi à désigner les grévistes d'Air France et les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, voyous, criminels, terroristes, ou les 9 mois fermes prononcés contre les syndicats de Goodyear pour comprendre quelle place est laissée à ces processus au sein d'un projet sécuritaire. Si l'état de sécurité peut se permettre d'abolir la politique, c'est qu'il apparaît dans un monde qui prétend avoir aboli l'histoire. Nous vivons dans une interminable pause. Nous vivons dans le moins pire des mondes, celui où l'économie se charge de configurer les rapports humains. La seule perspective de progrès consiste à transformer toujours plus d'aspects de la vie en marchandises. C'est le statu quo que défendent tous ensemble nos rafales, les patrouilles de police partout dans la rue et les caméras de sécurité des places publiques, pour ne citer qu'eux. À certains degrés, c'est effectivement d'une guerre de valeurs dont il s'agit, seulement c'est qu'ici qu'opère l'arnaque. On voudrait nous faire croire qu'il n'y a de place dans cette guerre que pour l'islam radical ou le parti de l'ordre. La rhétorique de Daesh et celle de l'État se rejoignent au moins sur ce point. Nous croyons à une troisième voie. En fait, nous croyons à une multitude de voies. Certaines d'entre elles passe par la défense d'espaces politiques ouverts à l'expérimentation, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Certaines par la multiplication des pratiques collectives, à l'attachement à la gratuité. Certaines consistent à désactiver partout où c'est possible les catégories qui nous séparent, étudiants, ouvriers, chômeurs, étrangers. D'autres à s'organiser pour vivre comme on l'entend et à se battre pour ce à quoi on croit. D'autres, enfin, tiennent simplement à s'accrocher dur comme fer aux quelques morceaux de vie qui débordent encore l'économie. Et qu'aucun État ne pourra jamais prétendre sécuriser. Les amitiés, les pratiques poétiques de l'espace urbain, du quotidien, la musicalité des instants, et à les faire grandir jusqu'à l'irréconciliable. Nous tenions simplement à rappeler ceci. Personne n'est obligé de subir la dialectique infernale qu'on nous impose aujourd'hui. L'aliénation ou la terreur. Deux idées de la mort. Il est toujours possible de faire un pas de côté, de s'organiser ici ou là pour élaborer un monde, des mondes qui nous soient habitables. Certains le font déjà. Nous ne vous donnerons pas leur adresse, et nous n'avons pas la prétention de tous les connaître, mais cela importe peu, car il suffit le plus souvent de tenir à quelques exigences, avec un tout petit peu de détermination, pour se rendre compte qu'on en fait déjà partie.
C'était l'édito de la Maison de la Grève, l'édito qui introduisait ces 3 jours de séminaire contre l'état d'urgence qui a fait le fil rouge de cette émission. Vous retrouverez tout ça sur notre blog, le blog de Vacarme en Réunion qui s'appelle tvnr.noblogs.org. Vous pouvez aussi nous écrire à vnr@riseup.net si vous souhaitez recevoir ces émissions directement dans votre boîte mail. On se retrouve la semaine prochaine avec la suite de cette conférence de Vanessa Codaccioni et puis d'autres de ces conférences contre l'état d'urgence. Si vous avez des témoignages, des prises de parti, des solidarités ou des coups de gueule, ben, n'hésitez pas à nous écrire sur le blog ou à notre adresse. Avant de se quitter, on voulait vous faire part de cette étrange déclaration de Manuel Valls qu'on a découvert sur Internet ce matin. Vous pouvez retrouver cette déclaration ainsi que la réponse de Notre-Dame-des-Landes sur notre blog. On vous retrouve dans une semaine. Au revoir.
L'autre urgence, c'est de résoudre le conflit à Notre-Dame-des-Landes. Cela n'a que trop duré. Des actes anti-aéroports, inadmissibles, intolérables, se sont à nouveau produits ces derniers jours. En dépit de décisions de justice, la contestation n'a cessé de croître, de sorte qu'aujourd'hui, la République est dans l'impasse. Et sommes-nous prêts maintenant, comme en 2012, à nous lancer à nouveau dans une opération policière d'envergure? Si nous persistons dans cette logique de répression, eh bien l'affrontement, vous dis-je, est assuré. Je m'adresse aujourd'hui au peuple de France, et même au-delà de la France, et je lance un défi, non pas à la France, mais au monde, pour éviter cette situation. Si le 27 février, au moins 100 000 hommes, femmes, bloquent simultanément les deux quatre voies en serrant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'État annulera définitivement le projet d'aéroport.
Gioca a Sanremo.